VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du 10 janvier 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albusson. Pour commencer les titres.
En Côte d'Ivoire, discours attendu du président Ouattara à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il a procédé hier à plusieurs changements à la tête de l'État et des forces de sécurité.
Des dirigeants de la CEDEAO à nouveau demain en Gambie pour exhorter encore Yahya Jammeh à céder le pouvoir après sa défaite à la présidentielle du 1er décembre.
Au Kenya, le gouvernement lance un ultimatum aux médecins du secteur public en grève depuis plus d'un mois.
Début aujourd'hui à Washington, au Sénat, des auditions de confirmation des futurs ministres du gouvernement du président élu Donald Trump.
Et puis le président Barack Obama, après deux mandats à la Maison-Blanche, fait ce soir ses adieux à la vie politique américaine dans un discours à Chicago.
Et n'oubliez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Côte d'Ivoire, après une mutinerie de l'armée rappelant les heures sombres qui ont conduit la Côte d'Ivoire au bord de la guerre civile, le premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan a démissionné lundi, première étape dans la préparation de la succession à la tête de l'État, nous dit Jean-Roger Bion.
Un vent de changement souffle sur le microcosme politique ivoirien. Le président Alassane Ouattara a démis de leurs fonctions les chefs de l'armée, de la gendarmerie et de la police sans préciser si cette décision était liée à la mutinerie. La démission du premier ministre est intervenue dans la matinée lundi, quelques heures avant la réélection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Et ce dernier a annoncé dans la foulée de sa réélection que le président Ouattara doit prendre la parole devant l'Assemblée nationale ce mardi à 10h, temps universel et heure locale. On s'attend à ce qu'il nomme un nouveau premier ministre et surtout un vice-président, poste nouvellement créé par la Constitution du 30 octobre 2016. Le premier ministre Daniel Kablan Duncan du parti PDCI est pressenti pour occuper ce fauteuil et d'après les analystes, Amadou Gon, un proche de M. Ouattara, devrait prendre la place de premier ministre. C'est dans ce contexte que les fonctionnaires ivoiriens ont déclenché lundi un mouvement de grève de 5 jours pour dénoncer une réforme des retraites en Côte d'Ivoire qui baisse les pensions de 30 à 50% et réclamer une revalorisation salariale. La grève touche tous les secteurs, notamment l'éducation, la santé avec un service minimum et l'administration territoriale, a expliqué à l'AFP le responsable du mouvement, Théodore Nyanyazadi.
Et justement, vous pourrez entendre Théodore Nyanyazadi dans la deuxième partie de cette édition.
Les États d'Afrique de l'Ouest, qui appellent Yahya Jammeh à céder le pouvoir en Gambie, ont annoncé hier l'envoi d'une nouvelle mission à Banjul. Pour sa part, Jammeh a limogé Sherif Bojang, son ministre de la Communication, ainsi que 12 ambassadeurs qui avaient félicité le président élu Adama Barrow. Par ailleurs, la justice a ordonné lundi la libération sous caution d'un ex-responsable de la télévision d'État, Mamoudou Sabali, arrêté par l'Agence nationale du renseignement le 8 novembre. Informé de cette décision, la NIA a refusé d'obtempérer, a indiqué à l'AFP une source judiciaire.
Et puis c'est en principe aujourd'hui que la Cour suprême de Gambie doit statuer sur le recours introduit par le président Yahya Jammeh qui conteste sa défaite à la présidentielle du 1er décembre dernier. Les juges étrangers qu'il a nommés le mois dernier pour siéger à la Cour ne sont toujours pas à Banjul, Abdourahmane Dia.
À Banjul, c'est toujours l'incertitude sur cette audience de la Cour suprême. Plusieurs médias nigériens ont rapporté que les juges nigériens nommés par Yahya Jammeh ont refusé de se rendre dans la capitale gambienne. Il n'est pas clair si la Cour va siéger ce mardi alors que la CEDEAO, qui s'est réunie hier en mini-sommet à Abuja, a promis de poursuivre sa médiation dans le respect de la constitution gambienne. Une délégation de l'organisation sous-régionale doit d'ailleurs se rendre demain à Banjul pour tenter de ramener Yahya Jammeh à la raison. La CEDEAO a une nouvelle fois réitéré sa préférence pour une solution négociée, mais dit n'exclure aucune option. Le chef de l'État gambien a sévèrement critiqué la CEDEAO dans son discours de fin d'année, l'accusant de parti pris. Donc il est peu probable que les chefs d'État qui se rendront demain dans la capitale gambienne lui fassent changer d'avis. Il continue de rejeter les résultats, appelant à l'organisation de nouvelles élections. De son côté, le président élu Adama Barrow continue de clamer qu'il prêtera serment comme prévu le 19 janvier prochain.
Un groupe d'experts de l'ONU demande à la République démocratique du Congo d'ouvrir une enquête sur une affaire de trafic d'or. Précision d'Anastasie Toudiesh.
Le rapport rendu public hier indique que l'or reste de loin le minéral le plus utilisé pour financer des armes et des réseaux criminels en RDC. Le métal précieux est principalement sorti du pays en contrebande vers Dubaï ou les Émirats arabes unis, avec la complicité de plusieurs officiers militaires en violation des règlements de l'armée et du code minier congolais. En septembre, l'armée congolaise a ouvert des enquêtes contre 3 généraux et 2 colonels pour leur implication présumée dans des mines du Sud Kivu. Mais 2 mois plus tard, l'affaire était classée sans suite. Les experts de l'ONU qui craignent un cycle d'impunité ont appelé Kinshasa à enquêter aussi sur l'entreprise Kimia Mining, détenue par des ressortissants chinois. Des militaires ont en effet été déployés pour protéger les activités de dragage de la rivière Ituri par cette société, alors que le gouverneur de la région avait suspendu toutes les opérations en juillet dernier en raison d'inquiétudes pour l'environnement.
Au Kenya, ultimatum du gouvernement aux médecins du secteur public en grève depuis plus d'un mois. Hier, les autorités ont menacé de licencier ceux qui ne vont pas reprendre le travail d'ici à demain. Claire Morin-Gibourg.
Le ministre de la Santé kényan, Cléopa Mailou, a été clair. Le processus de sanction commencera mercredi pour ceux qui ne reprendront pas le travail. Les médecins qui resteront en grève mercredi recevront donc à cette date butoir une lettre de licenciement et leur emploi fera l'objet d'un nouvel appel d'offres. Peter Mounia, le président du Conseil des gouverneurs, a tenté une dernière médiation. « Nous demandons une nouvelle fois au docteur d'accepter l'offre du gouvernement et de reprendre le travail », a-t-il déclaré. Plusieurs milliers de docteurs sont en grève au Kenya depuis le 5 décembre. Ils réclament une multiplication par 4 de leur salaire en vertu d'un accord signé en 2013 qui n'a jamais été appliqué. Vendredi, ils ont rejeté la proposition du gouvernement d'augmenter de 40% leur salaire. La grève dans les hôpitaux publics a eu un effet dévastateur. Certains malades ont été obligés d'aller vers des cliniques privées, mais la majorité de la population, très pauvre, ne peut s'offrir ce luxe.
Ablaye Mbaye, jeune chanteur sénégalais populaire dans son pays et connu également en Afrique, est décédé hier à Dakar à la suite d'un malaise en studio. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP un de ses proches, la mégastar Youssou N'Dour, qui a déploré sur Twitter la perte d'un petit frère.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, le président Bachar al-Assad est opposé à toute trêve dans la région de Wadi Barada, qui alimente Damas en eau. Renforcé par la prise d'Alep, il a aussi réaffirmé son refus de toute discussion autour de son départ lors des négociations prévues fin janvier au Kazakhstan. Après avoir repris la totalité d'Alep, les troupes du régime et le Hezbollah chiite libanais mènent désormais l'offensive pour déloger les rebelles de la ville de Wadi Barada, à 15 km de Damas, et reprendre ainsi le contrôle des principales sources d'approvisionnement en eau de la capitale.
Ici à Washington, c'est aujourd'hui que vont débuter les auditions de confirmation des futurs ministres du gouvernement du président élu Donald Trump. Entre-temps, il a nommé hier son gendre, Jared Kushner, haut conseiller à la Maison-Blanche, officialisant ainsi le rôle clé joué par le riche mari de sa fille Ivanka. Ce jeune homme d'affaires de 36 ans a renoncé à tout salaire pour la durée de ce poste. Il n'avait aucune expérience politique avant de devenir le cerveau de la campagne de son beau-père. Donald Trump donnera demain sa première conférence de presse depuis son élection.
Et puis le président Barack Obama, à 55 ans et après 2 mandats à la Maison-Blanche, fait aujourd'hui ses adieux à la vie politique américaine. Le démocrate qui cédera le pouvoir le 20 janvier au républicain Donald Trump, 70 ans, a choisi la ville de Chicago, où a commencé sa fulgurante ascension politique, pour prononcer son dernier discours en tant que président des États-Unis.
Le sénateur républicain John McCain et ses collègues démocrates Ben Cardin et Robert Menendez ont annoncé hier qu'ils présenteraient une législation pour imposer des sanctions complètes contre Moscou. C'est en réponse, a-t-il dit, aux tentatives russes d'influencer le résultat de l'élection présidentielle. De nouvelles sanctions ont été imposées lundi contre des personnalités russes, dont un proche du président Vladimir Poutine, cette fois-ci dans le cadre de la loi Sergueï Magnitsky, du nom d'un avocat russe mort en détention en 2009.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, doit dévoiler mardi, lors de son premier discours au Conseil de sécurité, son intention de revitaliser l'ONU avec une diplomatie plus affirmée soutenue par les grandes puissances. L'ancien Premier ministre portugais a déjà laissé filtrer les contours de sa stratégie pour réformer l'organisation et accentuer les efforts pour mettre fin au conflit du carnage en Syrie, au bain de sang au Soudan du Sud. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco d'Ilidico.
Les cours pétroliers ont fortement baissé hier. Le marché s'est laissé envahir par la crainte d'une offre élevée de différents pays producteurs. Plusieurs analystes avancent que le repli de lundi obéissait à des raisons techniques. Le cartel de l'OPEP a fait entrer en vigueur le 1er janvier deux accords, l'un en son sein et l'autre avec des pays extérieurs comme la Russie, pour réduire la production générale, mais des doutes demeurent sur leur concrétisation faute de données concrètes. L'Éthiopie fait parler d'elle en ce début de semaine grâce à ses performances économiques. Elle attire les investisseurs et impressionne les économistes. La croissance annuelle moyenne du PIB au cours des 12 dernières années dépasse les 10% selon Addis Abeba. Même le FMI, réputé sévère et optimiste, et parle d'une croissance de 7 à 9% sur la même période. Le pays qui n'a pas de ressources naturelles a atteint en 2015 un taux de croissance de 10,2%. Les résultats de 2016 ne sont pas encore connus, mais les estimations se situent autour de 4,5%. En Égypte, face au marasme économique, nombreuses sont les personnes qui choisissent de se financer en faisant la fête. Désormais, les jeudis soirs, dernier jour de la semaine en Égypte, des dizaines de fêtes ont lieu. Les participants versent entre 250 et 2500 livres égyptiennes par soirée, soit 13 à 130 euros pour collecter des fonds ailleurs que dans les banques.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Nouvelle récompense pour Cristiano Ronaldo.
Déjà Ballon d'Or, le champion d'Europe portugais Cristiano Ronaldo a logiquement reçu le prix FIFA du joueur de l'année 2016. C'était hier soir à Zurich. Il n'y avait guère de suspense. Avec ses titres en Ligue des Champions avec son club et l'Euro avec la sélection portugaise, CR7, l'attaquant a complètement écrasé la concurrence la saison dernière. Son sacre annoncé avait d'ailleurs déjà fuité dans la presse espagnole. La surprise de la soirée est venue du titre de meilleur entraîneur pour l'Italien Claudio Ranieri pour son exploit avec Leicester, champion d'Angleterre, à la surprise générale la saison passée.
L'équipe zimbabwéenne s'est bien envolée pour la CAN 2017.
Après 48 heures de retard, les Warriors ont décollé dimanche d'Harare en trois groupes pour rejoindre Yaoundé où ils doivent affronter ce mardi le Cameroun en amical. L'équipe nationale de football du Zimbabwe est depuis plusieurs semaines remontée contre la fédération pour des raisons financières. Les joueurs exigent notamment que leur prime de jeu passe de 1000 à 5000 dollars. Ces derniers jours, les Warriors avaient refusé de s'installer sur un site de leur fédération jugé de qualité trop médiocre selon la presse locale. On rappelle que pour sa troisième participation de l'histoire à la phase finale de la CAN, le Zimbabwe affrontera dans le groupe B le Sénégal, la Tunisie et l'Algérie.
Aubameyang, pas ballon d'or africain, mais honoré en Allemagne.
L'attaquant du Borussia Dortmund a été élu meilleur joueur de la phase allée de la Bundesliga par ses pairs. Pierre-Emerick Aubameyang, qui a déjà inscrit 16 buts en 15 matchs, a devancé l'attaquant suédois de Leipzig, Emil Forsberg, et l'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski.
Le mondial de football à 48 équipes, une idée fantastique pour Maradona.
Oui, la légende du football argentin Diego Maradona a estimé hier que faire passer la Coupe du Monde de 32 à 48 équipes serait une idée géniale. On sait que c'est une proposition du président de la FIFA, Gianni Infantino. Eh bien, ce mardi, le gouvernement du football mondial se prononcera pour cette formule qui ferait passer la Coupe du Monde de 48 équipes avec 16 groupes de 3 équipes. Enfin, Idrissa, on vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
New Orleans Pelicans bat New York Knicks 110-96. Oklahoma City bat Chicago 109-94. Et Dallas succombe à Minnesota 92-101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont appelé à une grève générale de 5 jours, accusant le gouvernement de n'avoir pas proposé de solution concrète à leurs préoccupations. Selon Théodore Nyanyazadi, secrétaire général de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public, pas question d'attendre plus longtemps pour avoir des réponses concrètes. Arzuma Compaoré, l'adjoint à Abidjan.
Nous voulons une réforme de la réforme des retraites qui a été faite en 2012 et qui remet en cause les droits acquis des fonctionnaires, réduit les pensions de retraite de 30 à 50% et met des conditions drastiques à la jouissance des pensions de réversion du conjoint survivant. Ensuite, ça fait 243 milliards que l'État nous doit. Là aussi, l'État refuse de reconnaître cette dette et de payer la dette. Ensuite, les journaliers de Côte d'Ivoire, qui sont des agents hybrides, qui sont dans l'administration publique, nous demandons leur intégration au niveau de la fonction publique sans concours et par régularisation administrative. Et enfin, le respect des libertés syndicales en Côte d'Ivoire, bafoué au quotidien par notre pays.
Cet appel, est-ce qu'il est observé?
Oui, totalement observé. Le point à mi-journée était à 92% de suivi. Nous observons tout de même un service minimum, conformément au décret sur les services minimums en Côte d'Ivoire.
Certains disent ne pas participer à la grève.
Oui, ils sont minoritaires. La réalité sur le terrain est tout autre. Certains en Côte d'Ivoire pensent que demander, revendiquer pour son bien-être, c'est faire de la politique. Donc, ils pensent qu'il faut soutenir leur pouvoir. Et nous qui faisons la grève, nous ne faisons pas de politique.
Le forum de février est un rendez-vous qu'ils attendent avec impatience. Pour eux, le gouvernement a accepté en fait la discussion. Ils sont dans le processus.
Pour nous, le forum n'est pas une mauvaise chose. Mais nous pensons qu'il faut que le gouvernement donne un gage, notamment en suspendant l'application de la réforme dans certaines de ses dispositions. Si cela est fait, alors nous pourrons apaiser la situation et nous irons tranquillement au forum.
Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser à la sortie récente des militaires dans les rues. Vous ne pensez pas que certains voient ça comme de l'opportunisme?
Non. Notre grève, comme je vous l'ai dit, ça fait un an que nous nous battons pour cette question. Et les premiers préavis ont été déposés depuis le mois d'octobre. Et la première grève a été faite en novembre. Donc, on ne peut pas nous accuser d'opportunisme. Parce que la situation actuelle, elle est plutôt arrivée après.
Quelle est la réaction du gouvernement en ce moment?
Le gouvernement, il semble que le gouvernement a été dissous. Ça cause un problème parce qu'il y a un vide. Les fonctionnaires estiment que tout ça est fait pour tuer leur mouvement. Nous espérons que le président pourra décider, agir pour que le Front social s'apaise par une déclaration qui suspend la mesure des retraites, qui propose un échéancier aussi long soit-il de paiement du stock des arriérés et qui intègre de façon administrative et directe nos camarades journaliers à la fonction publique. Ça, si c'est fait, je pense qu'on pourra calmer nos camarades et suspendre le mot d'ordre de grève.
C'était Théodore Nyanyazadi, secrétaire général de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le 27e sommet Afrique-France s'ouvre au Mali cette semaine avec la rencontre des jeunes suivie par celle des chefs d'État. Parallèlement, plusieurs organisations de la société civile malienne ont organisé des activités contre le sommet. La plus grande rencontre organisée est le Forum des peuples, dont les participants exigent des alternatives pour un nouveau partenariat économique. Et puis, tous les syndicats des magistrats maliens ont lancé un mot d'ordre de grève de 7 jours à partir du lundi 9 janvier. Aucune de ces manifestations n'empêche cependant la tenue du sommet France-Afrique-France au Mali, nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
C'est avec des jeunes d'Afrique et de France que l'activité du 27e sommet Afrique-France va démarrer au Mali. Moriba Dabodi Maurice du parti Djama.
Moi, je pense que ce sommet est très porteur. Il ne faut pas que nous soyons toujours dans la négation. Ce sommet peut apporter beaucoup de changements par rapport à notre situation. D'aucuns pensent de l'impérialisme des Occidentaux. Plus souvent, en Afrique, c'est vrai que les Occidentaux, voilà, ils sont très présents par rapport même à nos aux élections, moi je pense que la situation est en train de changer.
Le mouvement Faso Kanou, qui regroupe certaines associations de la jeunesse du Mali, voit cette rencontre autrement. Ibrahima Kébé, président du mouvement Faso Kanou.
Et la France-Afrique en tant que telle, c'est un fiasco criminel. Et avec la France-Afrique, c'est la politique avant la morale. Avec la France-Afrique, c'est d'être capable de tout faire pour satisfaire ses besoins. C'est pourquoi il y a eu le génocide au Rwanda en 1994. Et la France-Afrique, c'est même la crise en République du Mali, ce qui se passe aujourd'hui.
Malgré le sommet Afrique-France, les deux syndicats des magistrats maliens entament une grève de 7 jours à compter de ce lundi 9 janvier 2017. Cheikh Mohamed Chérif Kone, président du syndicat autonome de la magistrature.
C'est une coïncidence parce que nous sommes dans notre logique. Il était clairement mentionné comme quoi, à défaut d'être satisfait dans un délai de 3 mois et que la grève allait reprendre pour une durée de 7 jours, que ça coïncide avec le sommet France, peu importe. L'état du Mali a aujourd'hui besoin de faire un jeu franc. Je ne sais pas à quoi ça sert de faire des fuites en avant à l'interne et à l'international faire semblant comme quoi on est les meilleurs. Ça, c'est un gouvernement qui se caractérise par vraiment un amateurisme total.
Dans la même foulée, la 12e édition du Forum des peuples du Mali, en contrepoint au 27e sommet Afrique-France, s'est tenue les 7 et 8 janvier 2017 à Ouélé-Sébougou. Le thème de cette rencontre, les peuples du Sud exigent des alternatives au nouveau partenariat économique, social et sécuritaire entre la France et les États africains. Issa Kamisoko, président de CAD Mali.
Analyser les enjeux et les défis de la crise sécuritaire dans la bande sahélo-sahélienne durable. Analyser les nouvelles orientations, les mécanismes, les conditionnalités des institutions financières internationales et leurs conséquences sur le développement des pays du Sud. Renforcer la synergie d'action des acteurs de la société civile autour du contrôle citoyen de l'action publique en vue de trouver des solutions efficaces et durables aux problèmes socio-économiques et politiques que traverse l'Afrique.
Le président de la République du Mali a visité certaines infrastructures comme le nouveau salon président au niveau de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Senou. Ibrahim Bouakar Keïta s'est dit serein.
Ce premier accueil ici, il situe, me fait penser et espérer que nous serons à la hauteur. Car ça se joue dès l'accueil. Dès l'accueil. Vous voyez, si vous êtes à Paris ou à Trifouille-les-Oies, et chacun saura qu'il est, en la circonstance, pas à Trifouille-les-Oies, mais bel et bien là où il convient que l'on soit quand on atterrit dans une grande ville, une grande métropole. Et le Mali sera au rendez-vous, Inch'Allah.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le Bénin célèbre aujourd'hui, comme tous les 10 janvier, la fête des religions endogènes, encore appelée fête du Vodun. Approuvée dans les années 90 par Nissofor Soglo, alors président du Bénin, elle vise à donner toute sa valeur à ce patrimoine ancestral, selon notre correspondante sur place. Mais certains chrétiens du pays ne cachent pas leur opposition, comme on l'a vu dimanche dans les affrontements qui ont fait 2 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants dans la cité historique d'Abomé. De Cotonou, reportage de Ginette Fleur à Dondé.
Déjà bien de décennies qu'on dit du Bénin qu'il est le berceau du Vodun et cette fête annuelle qui permet aux gardiens de la tradition de promouvoir et de valoriser le culte Vodun sonnait comme une reconnaissance concédée à une religion ancienne mais longtemps restée sous l'ombre des religions dites nouvelles. Pour ces quelques chrétiens rencontrés, les avis restent partagés sur le bien fondé du culte Vodun.
C'est aussi une fête qu'il faut célébrer puisque le Vodun existait avant les autres religions. Qu'on le veuille ou pas, on est toujours en communion avec les manes de nos ancêtres.
Ceux-là sont des esprits infernaux qui viennent troubler la population, qui viennent gâcher leur projet.
Ce n'est rien comparé au diatribe de ce pasteur John Migan qui a adressé une lettre à la Cour constitutionnelle demandant la suppression de la fête des religions endogènes qui, selon lui, décrédibilise le Bénin aux yeux du monde entier. David Kofi Azah est un prêtre du Fa, encore appelé la géomancie. Pour lui, c'est un manque de culture que de dire que le Vodun est un nid de nuisance.
Aucun vaudou ne peut faire le bien et le mal sans la participation et l'action effective de l'homme. Les vaudous, c'est des énergies neutres, donc ils ne répondent pas à notre place. C'est l'homme qui fait du vaudou le bien ou le mal.
Malgré les nombreuses sensibilisations et les appels au respect de la laïcité reconnus par les textes fondamentaux, le vaudou, pour beaucoup de chrétiens, reste un culte satanique. Ricardo Kisoui est un doctorant en religion à l'Université nationale du Bénin.
Selon la Bible, eh bien, tout ce qui est idolâtrie, automatiquement,
automatiquement est satanique. Les vaudous, ils nous diront qu'ils ne sont pas idolâtres. Mais je dis, mais s'ils sont idolâtres, quel que soit, même si la mort de terre qui représente la sculpture, même si ce n'est pas véritablement l'esprit même qui est matérialisé, mais c'est un lieu de rendez-vous. En tant que tel, donc, ils adorent des esprits. Alors que le chrétien n'adore pas des esprits. Le chrétien adore l'esprit. Or, nous savons qu'il y a des esprits positifs et des esprits négatifs. Alors, les esprits positifs ne vont pas dans les arbres, ils ne sont pas dans les bois, ils ne sont pas dans les mots de terre, ils ne sont pas dans les rivières. Donc, ce sont le nid des esprits négatifs. Et en tant que tel, eh bien, ces esprits travaillent pour Satan. Donc, le vaudou est une région satanique.
En 10 ans de gestion du pouvoir d'État, l'ancien président de la République ne s'est jamais pointé à une manifestation officielle de la fête des religions endogènes au grand mécontentement des gardiens de la tradition qui pensent que Yahi Boni avait un fort penchant pour le christianisme. C'est un test pour Patrice Talon qui, selon les bruits de couloir, pourrait aussi prier par son absence. De Cotonou, Ginette Fleur-Adanli pour VOA Afrique.
La société civile gabonaise appelle au boycott de la CAN 2017 qui débute le 14 janvier à Libreville. L'environnement politico-économique actuel lié au contentieux de la dernière présidentielle constitue la raison majeure de cette protestation. Eric Manirakiza a joint le président du conseil d'administration du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, Georges Mpaga.
Le Gabon est dans une situation de crise politique sans précédent, plongé dans l'incertitude. Le Gabon est plongé dans le chaos. Donc le pays est paralysé actuellement par cette crise. Deuxièmement, le pays traverse une crise économique qui est marquée par des licenciements, par des grèves généralisées. Donc c'est un pays qui est au bord de la banqueroute consécutivement à la mauvaise gouvernance d'Ali Bongo. Combiner ces deux facteurs nous font dire que le Gabon n'est pas en capacité de mobiliser sa population pour un tel événement. Parce que les gens sont tellement démotivés.
Vous dites que la population est démotivée, mais pourquoi appeler au boycott alors ?
Ne reconnaît pas dans ce régime parce que M. Ali Bongo veut faire de la CAN une occasion pour redorer son blason terni par les crimes dont il est l'auteur.
Si vous menez toutes ces raisons avec ce boycott, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière de politiser le football qui devrait être l'opportunité pour rassembler et transcender les différences?
Il n'y a pas de mélange des genres. Le sport doit évoluer dans un cadre éthique, dans des cadres démocratiques. Or, aujourd'hui au Gabon, le cadre démocratique n'existe pas. Une élection a été organisée. Il y a un tricheur qui s'est autoproclamé président de la République. C'est quelqu'un qui est poursuivi par la société civile devant la Cour pénale internationale. Nous estimons qu'Ali Bongo ne peut pas être le représentant du Gabon. Donc le porte-voix de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien les autorités nationales, bien que l'équipe nationale soit présente. Nous disons que le sport doit être aussi un des éléments clés de la promotion de la démocratie. Les élèves au Gabon apprennent à même le sol, que M. Ali Bongo n'arrive pas à construire un seul établissement depuis qu'il a pris le pouvoir, que les universités sont en grève, que tout le système de santé est également dans la déliquescence. Organiser un événement aussi onéreux ne se justifie pas, parce que cet événement ne répond nullement aux besoins et aspirations, aux préoccupations principales des populations du Gabon qui ont du mal à joindre les deux bouts.
Mais on sait que des événements du genre génèrent plutôt des revenus dans le pays d'accueil.
Au Gabon, c'est le contraire, parce que les billets sont aujourd'hui vendus à moins $1, à 500 francs CFA. Ce qui montre qu'il y a un désintérêt de la population. Le Gabon est dans une situation de crise assez catastrophique que le risque d'un affrontement même lors de cette Coupe d'Afrique des Nations est visible dans toute la population.
Georges Mpaga, président du conseil d'administration du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon.
Washington Forum ce jeudi, le Cameroun, la grogne des anglophones, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, deux régions anglophones en crise depuis plus d'un mois. Les salles de classe sont restées vides pour cause de villes mortes décrétées par les syndicats d'enseignants et d'avocats. Les négociations avec le gouvernement sont-elles dans l'impasse? Que veulent les Camerounais anglophones? Quelle unité du pays après plus de 30 ans de pouvoir de Paul Biya? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Arnold Butson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.